Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Il y a 10 ans, le 11 mars 2011, pour être précis, un tremblement de terre et un tsunami engendraient la plus grave catastrophe nucléaire du 21e siècle à la centrale de Fukushima, au Japon. Comment cette catastrophe a-t-elle influencé ou marqué les artistes japonais? Pour répondre à cette question, je reçois ce matin l'essayiste et écrivain Michael Ferrier à l'occasion de la sortie d'un livre qui donne la parole aux artistes de la génération Fukushima et qui donne aussi à voir les œuvres puisqu'il s'agit d'un beau livre avec beaucoup d'iconographie. Dans l'œil du désastre, créé avec Fukushima, vient de sortir aux éditions Thierry Marchez. Et depuis donc Tokyo, où vous vivez depuis quelques années, Michael Ferrier, bonjour.
Bonjour.
En plus d'être écrivain, essayiste, vous êtes aussi professeur à l'université Kyoho, c'est à Tokyo. Vous avez beaucoup écrit d'ailleurs sur la catastrophe de Fukushima. Vous avez vécu cet événement, vous étiez déjà au Japon?
Oui, tout à fait. Le 11 mars 2011, j'étais au Japon, à Tokyo, et dans les jours, les semaines qui ont suivi, je suis monté dans la région du Tohoku, c'est-à-dire le nord-est, autour de Fukushima, pour voir de mes propres yeux ce qui se passait à ce moment-là.
Et depuis, vous n'arrêtez pas d'écrire autour de cette catastrophe. On se souvient de votre premier livre, d'une série de livres autour de l'après Fukushima. Le premier a été édité par Gallimard l'année d'après, en 2012. Il s'agissait de Fukushima, récit d'un désastre qui avait d'ailleurs obtenu le prix Édouard Glissant. Là, vous vous intéressez aux artistes. Comment la catastrophe a changé l'approche artistique au Japon? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs, Michael Ferrier, d'une génération d'artistes post-Fukushima?
À mon avis, oui, clairement oui. C'est-à-dire que l'événement que nous appelons Fukushima, et qui n'est pas seulement d'ailleurs la catastrophe nucléaire, parce que pour les artistes que nous avons interrogés, notamment les artistes japonais, c'est la triple catastrophe, le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire qui forment ce qu'on appelle Fukushima. Et depuis le 11 mars 2011, donc, je pense que cette catastrophe a irradié, si on peut dire, sans mauvais jeu de mots, l'ensemble de la scène de l'art japonais. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant, passionnant même, avec toute une équipe que je cite, parce que sans eux, le travail n'était pas possible. Il y a Clélia Zernik, qui est professeure aux Beaux-Arts de Paris. Il y a Amandine Davre, qui est à Montréal. Il y a Élise Domenac, qui est à l'ENS de Lyon. Il y a Bénédicte Guriot, qui est à Valenciennes. Et il y a Hervé Couchot, qui est à Tokyo, qui est un philosophe basé à Tokyo. Voilà, toute cette équipe, nous avons travaillé pour interroger, donc faire des entretiens avec des artistes, notamment des artistes japonais, mais aussi des artistes français. Et le but était donc de laisser la parole... Oui, aussi des artistes français, laisser la parole aux artistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup sur Fukushima, mais là, on voulait donner la parole à ceux qui sont sur le terrain, parce que les artistes que nous avons interrogés sont tous allés, et pour certains même résident à Fukushima. Et donc, il nous a semblé important de leur donner la parole, de même de laisser circuler cette parole dans des tables rondes, par exemple, parce qu'elle nous donne finalement quelque chose à comprendre et à voir même, non seulement de l'art, de la scène de l'art contemporain japonais, évidemment, mais aussi de la société japonaise, du Japon, et même, je pense, au-delà de la situation mondiale, c'est-à-dire de notre rapport au monde, à la nature, par exemple, à la technologie, et par-dessus tout, de notre rapport au vivant. Ce sont toutes ces questions-là qui sont évoquées dans ce gros et beau livre, donc des éditions Thierry Marchès, Dans l'œil du désastre.
Voilà, et c'est très intéressant parce que avant de parler de cette génération d'artistes, de leur rapport à ce qui s'est passé dans leur pays, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans leur tête, dans leur manière de concevoir le monde et donc l'art avec Fukushima, il y a aussi des chapitres assez éclairants sur la place de l'art au Japon, avec notamment des entretiens d'un historien de l'art qui nous rappelle dans quel contexte est née cette scène artistique.
Oui, alors j'ai parlé donc des artistes, mais effectivement, nous avons aussi interrogé un critique d'art très connu au Japon qui s'appelle Sawaragi Noi, et qui donc rappelle cette chose que l'art japonais, ce qu'on appelle art au Japon, eh bien déjà, il y a plusieurs mots pour dire le mot art en japonais. Il y a bijutsu, il y a geijitsu, et puis il y a arto, qui est une espèce de japonisation du mot anglais art. Et donc, le but de ce critique d'art japonais, c'est de rappeler cette sorte d'imprégnation d'influence très forte de l'Occident dans l'histoire de l'art au Japon, mais aussi par réaction aujourd'hui et même depuis maintenant plus d'une dizaine d'années des artistes et des critiques d'art, des théoriciens qui essayent de redécouper, si vous voulez, l'histoire de l'art japonais selon des critères plus spécifiquement japonais. Sawaragi Noi, par exemple, ouais. C'est assez amusant et instructif en même temps. Sawaragi Noi, ce critique d'art japonais, lui, il redécoupe toute l'histoire de l'art japonais avec les tremblements de terre, les séismes, justement. Il a une conception, pour ainsi dire, géologique de l'histoire de l'art japonais, et c'est passionnant.
Alors vous donnez donc la parole, vous l'avez dit, à cet historien de l'art, mais aussi à des artistes. Vous organisez aussi des tables rondes entre artistes japonais et artistes français ou occidentaux dans ce beau livre, dans l'œil du désastre. Mais d'une manière générale, les artistes que vous avez contactés, qui travaillent sur le désastre de Fukushima, ce sont plutôt des jeunes artistes ou des artistes déjà installés et qui vont radicalement changer d'approche artistique après la catastrophe?
Alors il y a un peu de tout. Il faut d'abord dire que c'est pas du tout un milieu homogène. Hein. Ce sont des artistes très variés qui travaillent d'ailleurs dans des domaines différents. Il y a des photographes, des cinéastes, il y a des
ça se termine par des dramaturges,
des installateurs. Mm-hmm. Il y a même des dramaturges, des metteurs en espace, des anthropo-dramaturges, c'est-à-dire des anthropologues qui sont passés à la mise en scène de théâtre, par exemple. Et donc, il y a aussi beaucoup de performeurs, hein. Il y a de la performance, il y a de l'installation. Donc, ce sont les arts visuels en général, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport, pas seulement aux arts plastiques ou à ce qu'on appelait avant, et ce qu'on continue d'appeler d'ailleurs les beaux-arts, mais à une définition un peu plus large des arts visuels.
Ça va d'ailleurs jusqu'à la pop culture, jusqu'à la bande dessinée. S'il fallait donner un exemple, justement, Michael Ferrier, l'exemple par exemple de l'artiste Yanagi Yukinori. Il est allé à Fukushima et ce qui avait été un paysage merveilleux, dit-il, pour lui, avait été emporté et à la place, il y avait juste des montagnes, de sacs noirs remplis de terre contaminée par la radioactivité. Cela m'a vraiment fait penser à Godzilla, dit-il.
Oui, tout à fait, puisque vous savez que Godzilla, ce monstre du cinéma japonais, est maintenant international, puisque ça a été repris dans des franchises américaines notamment, eh bien, est né d'un essai nucléaire dans les eaux au large du Japon. Donc la référence à Godzilla, elle est tout à fait pertinente de la part de Yanagi Yukinori. Mais je parlais de la variété de ces artistes, mais il y a quand même on peut quand même dégager déjà de grands axes de réflexion sur la scène de l'art contemporain japonais après l'événement de Fukushima. Et pour ça, on pourrait prendre par exemple l'exemple de Chimpom. Chimpom, c'est un groupe de jeunes artistes qui ont entre 20 et 30 ans, donc des jeunes artistes, et qui, eux, sont allés directement sur le site même de Fukushima, un mois exactement après la catastrophe, c'est-à-dire le 11 avril 2011. Ils y vont en tenue de radioprotection. C'est pas des déguisements, puisque effectivement la zone interdite est très radioactive à ce moment-là. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et là, ils font une performance artistique, c'est-à-dire ils montrent un drapeau japonais, ils se filment évidemment, ils vont ensuite diffuser ça sur Internet. Ils prennent un drapeau japonais, c'est-à-dire, vous savez, ce drapeau blanc avec un rond rouge au milieu, qu'on appelle le Shinomaru, qui est le symbole bien connu du Japon, qui est son drapeau national. Et puis, ils transforment ce rond rouge en ajoutant trois cônes rouge et il transforme le drapeau japonais en un trèfle radioactif. Tout cela en agitant ce drapeau, un peu comme on agite un drapeau blanc, devant la centrale même, la centrale dévastée, le 11 avril 2011, qui est en arrière-fond. Et donc voilà, ça c'est un exemple de performance artistique par ces jeunes gens, alors qui signe un peu, si vous voulez, le retour d'une politisation d'abord de l'art, d'une vision de l'art comme un acte à la fois esthétique et politique. Et c'est assez intéressant parce que, si vous vous souvenez bien, avant 2011, avant Fukushima, la scène de l'art japonais, et d'ailleurs ça concerne pas seulement l'art japonais, on pourrait en dire autant de beaucoup de marchés de l'art
dans le monde, oui.
L'art français par exemple, ou européen, et cette scène était dominée par une certaine conception de l'art qui était... vous savez, ce qu'on a appelé parfois la cute culture ou la pop culture, le pop art, c'est-à-dire quelque chose qui était kawaii. Kawaii, c'est-à-dire mignon, avec beaucoup de figurines animées, des couleurs soit un peu flashy, un peu stridentes, ou bien des, au contraire très pastelisées, avec en plus tous les produits dérivés qui allaient avec. L'exemple parfait, c'est Murakami Takashi, bien sûr, que tout le monde connaît, qui d'ailleurs est un grand artiste. C'est pas du tout pour l'incriminer, mais il représentait tout à fait ce courant-là de, je dirais, de ludification, ou d'art, un art, si vous voulez, qui était du côté de la culture un peu ludique. C'était un peu drôle, un peu mignon, un peu enjoué, flashy, et en même temps d'une certaine exploitation commerciale, je l'ai dit, avec les mugs, les t-shirts, tous les produits dérivés qu'on trouvait et qu'on trouve d'ailleurs toujours dans les...
Est-ce que son approche a changé justement après la catastrophe de Fukushima ?
Alors tout à fait, non seulement son approche a changé, mais Murakami lui-même a commencé à travailler sur la catastrophe de Fukushima. Donc on voit bien là qu'il y a eu un changement de paradigme, hein, on peut le dire, c'est-à-dire que tout d'un coup, le rôle, la fonction de l'art est, qui était un peu d'exploiter une sorte de capital commercial de la culture, tout d'un coup on s'aperçoit que tout ça est un peu dérisoire, tous ces ballons gonflés à l'hélium, toutes ces figurines animées. Et des gens comme Chimpom, comme ce groupe de jeunes artistes qui s'appellent eux-mêmes des artivistes, c'est des activistes de l'art, ils redonnent finalement à l'art un poids différent, une tension différente, un tranchant tout à fait neuf. Ils redonnent à l'art le pouvoir finalement de provoquer, ils sont provocants, ils sont assez radicaux, mais aussi de rire, il y a un côté extraordinairement humoristique là-dedans, et de réfléchir, parce que tout cela provoque des chocs esthétiques, mais aussi des chocs perceptifs, et finalement met en branle une réflexion sur que doit être ou que peut être l'art au temps de Fukushima.
Qu'est-ce qui a été le plus déterminant, Michael Ferry ? Est-ce que la vidéo de cet artiste qui s'appelle Kota Takushi, donc qui est allé à la centrale de Fukushima et qui a tourné une vidéo qui est devenue virale, emblématique, celle du travailleur au doigt pointé, c'est-à-dire un travailleur dans l'index cible la centrale pendant une vingtaine de minutes, vidéo qui a donc fait le tour du monde, est-ce que c'est à partir de cet événement que les artistes ont décidé de devenir aussi des activistes?
Alors, il n'y a pas qu'un seul événement, évidemment, qui a provoqué cette activisation de l'art, si j'ose dire. Mais c'est vrai que l'événement que vous citez, c'est-à-dire cette œuvre d'art, hein, qui est une vidéo donc par Kota Takeuchi, a eu un rôle de genèse. Il faut dire que Kota Takeuchi, que nous interrogeons dans le livre, il a vraiment une particularité forte, c'est qu'il travaillait à la centrale nucléaire de Fukushima au moment de l'accident, et il y travaille toujours. Donc c'est quelqu'un qui est directement impliqué sur le terrain. Et à ce moment-là, donc il filme ce travailleur dont vous avez parlé en train de pointer du doigt la caméra de surveillance de TEPCO. Alors, ce geste de pointer du doigt la caméra de surveillance de TEPCO, donc nous-mêmes, donc les spectateurs, il est fort. Il peut signaler, il est fort et en même temps il est subtil, je trouve, parce qu'il peut signaler beaucoup de choses. Il désigne manifestement une colère. Une colère muette, puisqu'il est lui aussi en habit de radioprotection, ce travailleur que filme Kota. Et puis, il est une espèce d'indignation, une indignation devant ce qui est en train de se passer sous les yeux du monde entier. Et cette indignation est due à une indignité, c'est-à-dire l'indignité de cette situation de toute une région qui tout d'un coup se retrouve contaminée par une catastrophe nucléaire. Donc c'est un moment effectivement très fort, mais Kota, qu'on réduit souvent à cette vidéo, évidemment, qui est tout à fait impressionnante, époustouflante même.
Et puis surtout très vue.
Lui-même est très vue, effectivement. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que cette vidéo, elle a une histoire, elle a une mémoire, je dirais, parce qu'elle fait référence à la vidéo d'un autre artiste, un artiste américain dans les années 70 à New York, qui avait fait exactement ce genre de mise en scène face à une caméra dans les années 70, s'appelait Vito Acconci. Et Acconci avait fait, lui aussi avait pointé du doigt une caméra, qui n'était pas une caméra de surveillance bien sûr, mais pour lui c'était dans un contexte très différent, mais il mettait déjà donc en dénonciation, mais je dirais plutôt que dénoncer, en réflexion, en question, il mettait en question un certain rapport à l'image que nous avons dans les sociétés modernes. Et donc vous voyez que cet acte qui peut sembler très politique, très militant, et qui l'est effectivement, est aussi un acte artistique qui est rempli vraiment d'une mémoire d'autres artistes qui ont existé avant et qui prolonge et fait bifurquer cette mémoire vers de tout nouveaux enjeux à la fois artistiques et politiques.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Et 10 ans, presque jour pour jour, après le désastre, la catastrophe de Fukushima, nous sommes avec Michael Ferrier, essayiste universitaire, qui a travaillé donc sur les artistes, la scène, la nouvelle scène artistique japonaise après Fukushima. Et on peut trouver donc des entretiens avec ces artistes, des rencontres entre ces artistes japonais et des artistes français. Et puis surtout, on peut voir quelques œuvres emblématiques de cette scène artistique, que ce soit dans les arts, mais aussi dans la vidéo, au théâtre, chez les photographes, dont ce beau livre édité par Thierry Marchez, Dans l'œil du désastre, créé avec Fukushima. Michael Ferrier, on peut passer à la photo, parce qu'il y a quelques photos emblématiques. Je pense bien sûr à celle d'Okubo Tadashi, une photo qu'on a vite appelée la Madone des décombres ou la pleureuse d'Ishionomaki.
Oui, alors lui, nous ne l'avons pas interrogé dans le livre, mais effectivement, nous en parlons beaucoup, parce que pour l'instant, nous en parlons donc de cette repolitisation de l'art, de cette manière un peu plus radicale, un peu plus activiste de faire de l'art après Fukushima. Mais il y a aussi des artistes qui évitent complètement le sensationnel. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé.
Oui, ils se sont posé la question, comment photographier la catastrophe? Qu'est-ce qu'on montre?
Exactement. Et alors notamment un artiste français, un photographe français, Thierry Girard, qui parle merveilleusement bien de cette photo, hein, que vous l'avez décrite vous-même comme une madone, presque une icône de la catastrophe de Fukushima. Elle représente quelque chose finalement d'assez banal et d'assez tragique en même temps. C'est-à-dire, c'est vraiment ce sont des codes à la fois culturels et des codes de visibilité qu'on a tout à fait l'habitude de voir, c'est-à-dire une femme, son enfant au milieu des décombres. Et avec de la peau nue, avec une espèce de dénudement de la personne humaine à cause de la catastrophe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Thierry Girard, qui parle de cette photo, lui-même est un grand photographe qui a pris beaucoup de photographies à Fukushima. Et lui, alors, il a choisi un angle tout à fait différent, éloigné justement de ce genre de sensationnalisme très médiatique, très très visuel, très tape à l'œil, je dirais. Et lui, par exemple, lorsqu'il prend en photo les territoires dévastés par le tsunami dans la région de Fukushima, il évite justement ce genre de spectacularisation. Et il passe par d'autres codes, par d'autres canaux. Il va par exemple photographier des ouvriers qui sont là, qui sont en train de réparer le territoire. Parce qu'une madone de Fukushima, il y en a une, et elle est là, elle existe dans cette photo. Mais alors des ouvriers qui sont en train, patiemment, petit à petit, de réparer ce territoire, d'essayer en tout cas de le rendre à nouveau un peu plus vivable, il y en a des milliers. Et c'est à eux aussi qu'ils s'intéressent, aux gens qui tout simplement réparent le territoire.
Le trauma de cette catastrophe nucléaire, ce qui s'est passé à Fukushima il y a tout juste 10 ans, Michael Ferrier, continue-t-il à être très présent dans les œuvres artistiques des jeunes artistes japonais?
Tout à fait. Et c'est arrivé très vite après 2011, dès l'année 2011 d'ailleurs. Je me souviens très bien qu'on ne pouvait pas finalement au bout d'un moment se promener dans des musées à Tokyo ou au Japon en général, que ce soit des grands musées nationaux, des musées de préfecture, des musées de région ou dans des galeries d'art. À un moment donné, chaque galerie pratiquement avait soit une exposition consacrée à Fukushima, soit une partie d'exposition ou quelques artistes qui évoquaient ce thème. Donc ce trauma, comme vous l'appelez, a d'abord provoqué un sentiment d'impuissance, de sidération. Il y avait quelque chose, il y avait une forme d'impuissance du regard face à tout ce qui se passait. Mais en même temps, assez rapidement, je trouve que les artistes ont trouvé de, les artistes ont du répondant, voilà. Les artistes ont trouvé de quoi répondre, de quoi questionner ce qui s'était passé. Et depuis tout à l'heure, on dit l'art post-Fukushima ou après Fukushima. Bien sûr, puisque ça se situe après le 11 mars et la cascade de catastrophes à laquelle nous avons assisté. Mais je dirais que cette préposition après, elle est un peu étrange parce que elle est un peu en trompe-l'œil, puisque en fait, Fukushima, ça continue. Notamment la contamination radioactive, elle est toujours bien présente aujourd'hui avec des millions de, enfin, 1 million de mètres cubes, un peu plus même.
Malgré les murs de béton, ouais.
Et puis elle est présente, comme vous venez de le dire, par son inscription aujourd'hui dans le paysage, puisque pour répondre au tsunami, on a choisi, le gouvernement japonais a choisi de d'ériger un mur gigantesque, hein, de 15 mètres de haut sur des dizaines de kilomètres le long de la côte du Tohoku. Donc oui, et cette catastrophe est toujours bien présente.
Alors vous parlez des artistes, des photographes, des vidéastes. Alors pour avoir une idée de ces œuvres-là, de ces artistes-là, pour entendre aussi leurs propos, je vous recommande vivement ce beau livre aux éditions Thierry Marchez, coordonné par vous-même d'ailleurs, Michael Ferrier. Merci d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle le titre de cet ouvrage, Dans l'œil du désastre, créé avec Fukushima. Quelques exemples sont à retrouver bien sûr dans la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr, une émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Nasser Moussaoui.
Le Réveil Culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Et dans un instant, les informations, le journal de 6h30 sur France Culture. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonne journée.
Who makes you smile every day? You. Who makes you laugh like no one else?